Europe 1. Europe 1.
Cédric Mas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien militaire et un très fin observateur des conflits de ce début de 21e siècle. Le week-end dernier, lorsque l'Iran a attaqué Israël, 99% des drones et des missiles iraniens ont été interceptés avant d'atteindre le territoire israélien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dôme de fer qui protège l'État hébreu? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, c'est un raccourci qui nous fait appeler ce système de défense anti-aérienne le dôme de fer, puisqu'en réalité, le dôme de fer est un système qui est destiné à protéger Israël des roquettes et des obus à très courte portée qui sont lancés depuis les territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza. En réalité, les systèmes qui ont intercepté les missiles balistiques, les missiles de croisière et les drones à longue portée Shahid, qui sont les mêmes employés par la Russie en Ukraine d'ailleurs, ce sont des systèmes qui sont des systèmes d'interception beaucoup plus élaborés et pour lesquels d'ailleurs les États-Unis ont mis la main à la pâte, si je puis me permettre, puisque une partie de ces interceptions sont intervenues de tirs américains, de même que les Européens et les Français ont fourni la détection des trajectoires de ces missiles, de ces vecteurs qui mettent un certain temps avant d'atteindre le territoire d'Israël et donc ce qui permet à la défense anti-aérienne israélienne et de ses alliés, dont les Américains, d'intervenir, de les intercepter avant. Beaucoup ont d'ailleurs été interceptés avant même qu'ils parviennent sur le territoire israélien. Si on doit comparer cette guerre aérienne avec celle qui se passe en Ukraine, puisqu'on a des vecteurs qui sont similaires, hein, les drones iraniens sont aussi employés par la Russie, comme je le disais, il faut déjà comparer la situation géographique. C'est la géographie qui imprime les choses. Israël est un territoire très exigu, très facile à défendre, alors que l'Ukraine est très immense, c'est un territoire immense, et donc les mêmes moyens n'obtiendraient pas les mêmes résultats en Ukraine, sachant qu'il n'y a pas les mêmes moyens.
Alors, un tel système de défense anti-aérienne, est-ce que d'autres pays en disposent?
Eh bien, il faut l'espérer en tout cas qu'ils disposent des systèmes aussi performants. La technologie, en tout cas, est maîtrisée par un certain nombre d'autres pays. Même si je ne suis pas un spécialiste de la guerre aérienne, je sais que la France, les États-Unis et même la Russie se targuaient de disposer de systèmes équivalents. Après, la question, c'est leur efficacité par rapport aux cibles à protéger. Je le répète, Israël est un territoire très exigu, donc il est assez facile de pouvoir couvrir l'intégralité des moyens, des axes d'approche de ces vecteurs.
L'Iran a montré un peu la limite de son matériel. On dit que 50% des missiles lancés sont écrasés juste après leur décollage.
Alors, ces chiffres restent à vérifier. Il y a beaucoup de guerres informationnelles des deux côtés. Comme en Ukraine, les opérations en Gaza nous montrent une intensité de la guerre informationnelle des deux côtés, côté israélien comme côté pro-palestinien et donc iranien notamment, qui est très importante. Donc je resterai très prudent sur ces chiffres. En attendant, ce n'est pas nécessairement un échec, car c'est la première fois qu'Israël est attaqué par un aussi grand nombre de vecteurs, et il est certain que l'Iran n'a pas a, semble-t-il, montré en tout cas en apparence une certaine retenue dans ses coups. Donc il faut rester très prudent.
Alors il faut voir aussi le rapport qualité-prix. La défense israélienne aurait coûté au moins 7 fois plus cher que l'attaque iranienne. Plus $1 milliard en une soirée. Voilà ce que coûterait le dôme de fer. Mais bon, là aussi c'est peut-être exagéré. Tandis que les drones iraniens ne coûtent que quelques dizaines de milliers d'euros. En cas de guerre longue, on verrait la différence, non?
Alors, c'est toujours le même problème. Quel est le prix de la sécurité? Donc là, les chiffres sont un peu plus faciles à vérifier puisque les coûts budgétaires de ces systèmes sont très importants. Le caractère onéreux des matériels de haute technologie que les armées occidentales, y compris la France, sont capables de déployer est un faux problème en réalité, car il suffit qu'un seul de ces vecteurs parviennent à Tel Aviv et s'écrasent sur un immeuble d'habitation pour faire des centaines de victimes. On le voit en Ukraine chaque jour. Hein. Je vous répète que chaque jour, vous avez des missiles et des drones Shahid qui s'écrasent sur les immeubles d'habitation et qui tuent des civils et des familles entières. Quel est le coût de Vigipirate par rapport au coût du montage d'un attentat, des attentats du 13 novembre? On pourrait comparer la même chose. La sécurité n'a pas de prix. Et en tout cas, nous avons, et il faut s'en féliciter, les moyens technologiques de pouvoir l'assurer pour l'instant.
Alors, un qui a été impressionné par le dôme de fer, c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a déclaré « Ici, en Ukraine, nous n'avons malheureusement pas le niveau de défense que nous avons tous vu au Moyen-Orient il y a quelques jours. L'Ukraine pourrait-elle être protégée par l'Occident autant que les Israël ? Vous l'avez dit, Israël est un territoire beaucoup plus exigu, hein, 22 000 kilomètres carrés. L'Ukraine, c'est 600 000 kilomètres carrés, 30 fois plus grand. Mais est-ce qu'on pourrait protéger l'Ukraine un tant soit peu aussi efficacement qu'Israël ?
Alors, le protéger efficacement, je ne le sais pas. Mais en attendant, mieux les protéger et mieux les soutenir, c'est évident. L'Ukraine a réclamé la livraison des matériels et des technologies israéliennes antiaériennes, qui sont souvent des technologies développées par Israël avec d'autres pays. Je pense notamment à des partenariats militaro-industriels avec la Suède. Et Israël et le gouvernement de Benjamin Netanyahou ont systématiquement bloqué depuis 2022 toute livraison de matériel militaire à Israël. Pourquoi ?
À l'Ukraine.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Israël, la sécurité de tout le nord d'Israël est entre les mains de Vladimir Poutine, puisque Benjamin Netanyahou l'a laissé s'installer en Syrie à partir de septembre 2015. Et aujourd'hui, c'est grâce à la Russie qu'Israël peut frapper l'Iran en Syrie. Et il suffit que la Russie s'y oppose ou au contraire pousse l'Iran à lancer des attaques contre le nord d'Israël pour que la situation bascule. Et donc, Benjamin Netanyahou est aujourd'hui pris dans un chantage et ne peut pas fournir ce matériel. En ce qui concerne notre matériel, nous, oui, nous le fournissons compte-gouttes. Les Allemands rechignent à fournir du matériel d'antiaérien. Il faut savoir que chaque jour, hein, par exemple le 17 avril à Tcherniv, un missile s'est écrasé sur un immeuble, 60 blessés et 18 morts d'après le dernier bilan provisoire, sachant que les décombres n'ont pas pu être dégagés. On a vu des frappes aériennes stratégiques de drones et de missiles très précises de la part de la Russie contre les centrales énergétiques ukrainiennes il y a quelques semaines. Ce qui montre que lorsque la Russie vise des habitations civiles, c'est volontairement. Et donc, il s'agit bien d'un crime de guerre parce qu'elle a les moyens technologiques d'être beaucoup plus précise.
Alors, on a parlé de représailles israéliennes puisqu'il y a eu des explosions dans la région disparant, des drones apparemment. Est-ce qu'on en sait plus ou est-ce que vous en savez plus, Cédric Mas?
Oh non, et je me garderai bien. Dans les deux cas, tout ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a une représailles pour le principe, de même que la frappe iranienne était un petit peu pour le principe après la frappe israélienne contre le consulat iranien à Damas, hein, puisque tout cela, c'est à chaque fois des réponses, des représailles. C'est un engrenage qui existe depuis des décennies maintenant au Moyen-Orient. Mais en revanche, ce qu'on peut relever aussi, c'est que pour l'instant, des deux côtés, on cherche à montrer qu'on fait preuve de retenue, même si un certain nombre de coups portent et que le bilan humain reste à préciser.
On fait une pause, Cédric Mas, et puis on va parler plus précisément de la guerre en Ukraine. Cédric Mas est toujours en direct avec nous. On vient de parler des défenses antiaériennes d'Israël. Parlons maintenant de celle de l'Ukraine. Elle serait réduite à peau de chagrin, d'après The Wall Street Journal. L'armée ukrainienne manque de tout, d'effectifs, de munitions, d'obus d'artillerie. Les chances de repousser la Russie semblent de plus en plus minces. Qu'en pensez-vous, Cédric Mas ?
Alors, il y a deux éléments dans ce discours. Je vous ai parlé de guerre informationnelle. Il y a évidemment une situation qui est très compliquée pour l'Ukraine actuellement. Et je pourrais y revenir plus en détail, puisque la Russie mise tout, hein, joue son va-tout aujourd'hui, engage tous ses moyens, sans aucun égard pour les pertes, en profitant d'une fenêtre de vulnérabilité qui s'est ouverte depuis octobre dernier, depuis le détournement d'une partie de la digue occidentale de l'Ukraine vers Israël et le blocage de l'aide américaine par le Congrès. Mais également, il y a aussi une certaine dramatisation du discours. Il faut se rappeler qu'à chaque fois que l'Ukraine a eu des discours un petit peu positifs et triomphalistes, les Occidentaux ont immédiatement réduit leur aide. Or, aujourd'hui, les Ukrainiens et à Kiev, on a bien compris le message et ce jeu, et donc on dramatise au maximum. Ceci dit, sur le terrain, la situation est tendue et compliquée. Vous avez parlé des défenses antiaériennes. On constate, les observateurs, les analystes constatent que l'aviation russe s'aventure de plus en plus près du front, ce qui est mauvais signe. Ça veut dire que la défense antiaérienne ukrainienne n'est plus suffisamment armée. Alors, il manque à la fois de vecteurs, mais surtout de munitions, c'est-à-dire des missiles à mettre dans les lance-missiles antiaériens de différents types. Et puis également, il manque d'artillerie. Mais là encore, il faut pondérer, car d'après les informations que j'ai obtenues du front, la communication ukrainienne met l'accent sur les frappes de drones et verrouille toute communication sur les frappes d'obus. Donc, il cherche vraiment à nous montrer qu'il manque d'artillerie. Il n'en manque peut-être pas tant que ça, mais en attendant, la situation reste compliquée face aux assauts répétés, sans aucun égard des pertes, lancés par la Russie, avec des pertes extraordinaires. Car la situation actuelle, même si elle ne bouge pas sur le front, c'est un carnage dramatique pour les deux camps.
Mais la Russie est très supérieure en termes d'effectifs et d'équipement, non ? Même si elle a subi, comme vous l'avez dit, de grosses pertes, elle reconstitue ses forces plus rapidement.
Alors, c'est de moins en moins le cas. On constate la disparition d'un certain nombre d'équipements et puis les ratios de pertes, l'ampleur des pertes subies depuis octobre. En septembre, la Russie a perdu 88 véhicules blindés, chars, véhicules blindés de transport de troupes, véhicules blindés de combat léger, etc. Actuellement, sur le mois d'avril, on est à plus de 179 à l'heure où nous parlons, vous voyez. C'est-à-dire qu'en mars, on est à 272. À ce rythme-là, on est entre 200 et 300 véhicules perdus chaque mois. Le système industriel russe et les réserves et les stocks ne peuvent pas tenir ce rythme très longtemps. Ils ne pourront pas. Et on sent bien aujourd'hui que Vladimir Poutine joue son va-tout avec comme ligne de mire l'automne 2024 et notamment janvier 2025 en espérant l'arrivée de Trump au pouvoir. Parce qu'en réalité, les stocks de l'armée russe aujourd'hui, l'essentiel des équipements qui étaient immédiatement utilisables ont été retirés des stocks. On l'a constaté par les images satellites. Et aujourd'hui, il ne reste dans les stocks que des matériels qui nécessitent une refonte. Or, les usines russes sont déjà engorgées par le matériel qui revient du front endommagé. Et donc, à partir de ce moment-là, le système est en surchauffe. Sachant par ailleurs que c'est entre 20 et 30 000 hommes qui sont perdus chaque mois, entre les blessés, les prisonniers, les choqués et les morts. Et ces hommes, ils manquent à une population. Actuellement, les usines russes manquent de plus de 5 millions de travailleurs. Voyez. Donc le système est complètement en surchauffe. Mais en apparence, il continue à pousser, tout simplement parce que les Ukrainiens en face sont encore moins à leur opposé que l'année dernière à la même époque.
Alors l'Ukraine, on le sait, dépend beaucoup de l'aide occidentale. Alors vous l'avez rappelé, les 95 milliards de dollars d'aide américaine à l'Ukraine et à Israël sont toujours bloqués à la Chambre. Quelles conséquences on observe sur le terrain ?
Eh bien, comme je vous le disais, depuis octobre, hein, rappelez-vous, l'offensive d'été ukrainienne qui piétinait, qui n'a pas atteint les objectifs attendus, et donc qui était un échec, se poursuivait jusqu'en octobre. Et à partir d'entre le 5 et le 10 octobre, il y a une bascule et une offensive russe qui se poursuit tout l'hiver et maintenant qui continue au printemps à Avdiivka et maintenant sur d'autres secteurs. Depuis le 7 octobre, parce qu'en réalité, et là, il faut le dire à vos auditeurs, il y a une espèce de jeu d'hypocrisie. L'aide israélienne n'a pas besoin d'un vote du Congrès pour être activée. Actuellement, depuis octobre, on a observé des augmentations de 10 à 30 fois plus de livraisons d'armes et de matériel et de munitions à Israël. En revanche, l'aide ukrainienne, elle, il faut un vote du Congrès qui est bloqué par les alliés de Poutine au Congrès, c'est-à-dire les représentants des courants les plus extrémistes pro-Trump.
Et les Européens essayent de prendre le relais des États-Unis. Est-ce que ça se matérialise sur le front ?
Alors, ça se matérialise essentiellement à l'initiative des Européens de l'Est. Hein, la République tchèque, par exemple, a pris l'initiative d'acheter sur étagère un certain nombre de stocks d'obus de 155, puisque les obus de 155 qui manquent à l'artillerie ukrainienne, ils sont actuellement tirés sur la bande de Gaza par l'armée israélienne, qui est équipée des mêmes matériels, en tout cas des mêmes calibres. Donc, on leur fournit ces obus. Mais une fois que vous avez trouvé un stock d'un million d'obus à fournir, il faut les livrer, les vérifier, les transporter jusque le terrain, et ensuite les disséminer. C'est pour ça qu'actuellement la Russie met le paquet, si vous me permettez l'expression, c'est qu'elle sait que cette fenêtre de vulnérabilité ukrainienne est en train de se refermer petit à petit, et donc force nous est de constater que sur le terrain, ces offensives, ces coups de boutoir répétés, malgré les pertes consenties, n'ont pas abouti ni à une percée du front, ni à un effondrement. Mais la situation est critique. Elle est critique pourquoi ? Parce que les Ukrainiens ne veulent pas lâcher leurs terres. Et aujourd'hui, ils sont obligés de lâcher du terrain, de laisser du terrain pour gagner du temps et économiser du sang.
La ligne de front est toujours à peu près la même depuis le début. 20% du territoire ukrainien est toujours occupé par les Russes. Vous l'avez dit, pas de percée, pas d'effondrement. Il n'y a pas eu de contre-offensive ou d'offensive depuis assez longtemps maintenant. On pense évidemment toujours à la guerre de 14-18. Hein.
Oui, mais comme certaines périodes de la guerre de 14-18, et comme je vous l'expliquais, actuellement, si le front ne bouge pas beaucoup, il bouge quand même quelques centaines de mètres grappillés par-ci, par-là, à un prix très élevé pour les Russes comme pour les Ukrainiens, si le front ne bouge pas beaucoup, les opérations sont très intensives. Hein. Les chiffres que je vous citais tout à l'heure, ce sont les pertes documentées par des vidéos ou des images, c'est-à-dire des pertes qui sont vérifiées, qui sont bien évidemment sous-évaluées par rapport à la réalité. On est le double de l'été dernier. Hein. Les pertes russes en juin 2023 et en juillet 2023, c'était une centaine de véhicules. Là, on est entre 200 et 280, voire peut-être même 300 en avril. Nul ne le sait. Donc, les opérations sont très intenses. On sent bien que les Russes veulent, non pas emporter la décision, mais en tout cas nous marquer dans les esprits et donner cette impression d'une puissance irrésistible, un espèce de rouleau compresseur, et surtout d'une puissance qui n'a pas de limite dans ses réserves. Or, on est en train de voir, dans les types de matériel qui sont engagés par les Russes, que ces réserves sont atteintes. Pour vous donner un dernier exemple, avant-hier, les Russes ont perdu 12 tanks, 20 véhicules blindés et 30 camions, et 5 canons. Les artilleurs, en vert documenté, les Ukrainiens, 5 canons, 3 véhicules blindés, 2 camions et 3 tanks. Voilà. Donc vous voyez tout de suite que les choses, les ratios sont complètement délirants actuellement et insoutenables sur le long terme, même pour un pays qui se targue d'être aussi inépuisable et immense que la Russie.
Merci Cédric Mas. On va maintenant faire une pause et on retrouve ensuite Frédéric Rouvillois qui publie un livre sur la politesse et la politique.